8 bliain úntach ar gachéine ar Radio San Ferrol.
Toke mera shea asme biotari bezmat yerindege mera biya mezele bezmat yerindege.
Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
On tient à rappeler que là, on a échangé avec toi avant ton départ au Niger. Ensuite, tu vas faire un voyage, si j'ai bien compris, d'un mois.
Oui, trois semaines.
Trois semaines, d'accord. Et est-ce que tu acceptes toujours qu'on te retrouve après ton voyage pour avoir un petit retour de ton expérience?
Et je vous dirai avec grand plaisir.
Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous sommes de nouveau en studio. Avec Ludivine, Sarah, Sylviane, Claire et surtout on retrouve Abdou. Donc voilà Abdou, nous te retrouvons après ton voyage au Niger dont on entendait les derniers mots de l'émission précédente diffusée en décembre. Bonjour Abdou.
Bonjour.
Comment tu vas?
Oui, je vais bien. Merci. Et vous-même?
Oui, on est très très contents de te recevoir. Pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu l'émission du 11 décembre, je vous renvoie au site de l'émission, mais je peux rappeler la petite présentation qu'on avait faite de toi. Et puis, comme ça, on va poursuivre aujourd'hui et tu vas nous raconter. Ça te va?
Avec plaisir.
Alors, voici comment on t'avait présenté. Le Niger, la France, ces deux pays, Abdou les a tout autant dans le cœur. Et que ce soit ici ou ailleurs, il les fait vivre autour de lui. Il nous parle de ses valeurs, le lien à la terre, la grande famille des humains qui se relie, la transmission, le respect. Il travaille aux Amanins, il habite avec les siens, travaille pour le vivant et les liens, il parle avec philosophie et convivialité. Et c'est avec ces qualités-là que nous te retrouvons aujourd'hui, Abdou. Après un petit peu plus d'un mois au Niger, avec ses mêmes valeurs au cœur, ici ou ailleurs. Et voilà, nous te retrouvons et on vous propose à vous dans l'émission de se faire une petite immersion avec toi. Abdou, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on vient d'entendre? Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe?
Du coup, là, c'est l'appel à la prière du matin, du Fajr, qui annonce Du coup, au fait, le début, ça annonce au fait la première entrée de la journée, donc qui est sacrée, et ça commence au fait par une prière, donc la prière du matin. Et de là, en fait, les gens, après, commencent leur activité de la journée.
Et il est quelle heure là?
La prière, c'est une prière, au fait, en fonction de la période, mais souvent c'est vers 5h30, 6h. Donc les gens se lèvent très tôt au Niger, parce que bon, il fait chaud aussi. Quand il fait chaud, du froid, et souvent les gens ils font les activités le matin. Donc les journées sont rythmées par aussi ces cycles de prière, au fait, qui font qu'à partir de 5h30, 6h, quand les gens finissent la prière, au fait, ils vaguent à leurs occupations pour aller ben, voilà, travailler, rencontrer les gens, visiter les familles, et puis ben, créer leur lien en fonction des activités qu'ils ont définies sur leur journée.
Il fait nuit à ce moment-là?
Et là, il fait nuit souvent vers 19h, 19h30.
Et le matin, le jour se lève vers quelle heure?
Vers 6 heures.
Ah oui,
6
c'est avec le
heures,
jour.
c'est ça, ouais.
D'accord.
Donc là, c'est un son que tu as enregistré lors de ton voyage. Tu peux nous préciser la ville, le lieu, le...
Oui, en effet, c'est un son que j'ai enregistré parce que j'habite quartier Jean Gorzo. Et au fait, à Niamey, dans chaque zone, il y a des mosquées. Au fait, il y a ces appels à la prière qui rythment les journées. Au-delà de celui du 6h30 du matin, il y a aussi plusieurs autres prières qui sont calées sur la journée, sur cinq périodes. Donc, c'est dans le quartier de Jongorzo, c'est un quartier de Niamey, la capitale où j'habite. Du coup, au fait, si vous voulez, cet appel, moi, je l'ai capté en cheminant vers la mosquée. Au fait, au même titre que le muezzin faisait l'appel, moi, j'enregistrais l'appel et ça m'orientait aussi vers la mosquée.
Donc la journée commence par un temps de rassemblement. Après, tout le monde est plutôt dehors et dans ses activités de la journée.
Effectivement, oui. Ça met à lumière, au fait, une sorte de résonance qui fait qu'on commence en collectivité. Et après, ben, individuellement, chacun fait ce qu'il a à faire. Et après, on se retrouve en collectivité aussi.
D'accord, on avait vu dans la première émission que le lien pour toi, le partage, était vraiment très intéressant.
Je me questionnais, toi, tu as été durant un mois au Niger, mais tu n'as pas, enfin, sans activité à proprement parler, donc tu es bien parti avec deux doubles objectifs, retrouver la famille et accompagner des projets en relation avec l'agriculture. Donc, comment tes journées se sont-elles organisées, puisque voilà, toi, tu étais finalement autonome?
Très bonne question. Au fait, quand j'étais arrivé, c'était vraiment dans un premier temps, d'abord, et j'avais envie, au fait, de me poser et de me réimprégner chez moi, au fait, parce que ça faisait quand même un bon bout de temps. Et la dernière fois, quand j'étais avec, comme je disais, ma compagne Lydia et mes deux garçons, Eddie et Issa. Et du coup, là, j'étais parti tout seul. Et du coup, au fait, il y a toujours ce décalage qui fait que quand on arrive aussi, il faut se réapproprier le lieu, au fait. Donc, ça s'est fait naturellement. Et après, souvent, on a aussi cette façon de faire que dès qu'on arrive, au fait, la première des choses, souvent, qu'on met en place, c'est le lien. Et pour mettre en place ce lien, ben, on va aller retrouver les oncles, les tantes, pour leur faire un petit bonjour, pour qu'ils sentent qu'on est là. Et ça fait plaisir, au fait, à tout le monde, quoi, de se retrouver. Et puis moi, ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas venu. Donc, il y a eu pas mal de changements. Du coup, j'ai des neveux, j'ai des nièces. La famille s'agrandit et du coup, ça me repermet de recréer, de reconnecter tout ce lien. Et pour moi, c'est comme si je m'imagine, au fait, avec un arbre et plein de réseaux souterrains. Donc, des formats mycélium, tout ça, qui connectent tout le monde, qui lient les gens. Et du coup, c'est comme si je m'imprègne dedans et je trouve cette reliance. Et je reconnecte moi et le tout, quoi.
Merci pour cette belle image.
Et je voulais te demander aussi, tu dis que ça fait longtemps que tu n'y avais pas été, donc tu reconnectes. Et est-ce que tu as trouvé beaucoup de... Enfin, tu as parlé des changements dans la famille. Est-ce que tu as senti des changements aussi au niveau général, en fait, de la société, de l'économie, de la politique? Est-ce que c'était très différent par rapport à quand tu y avais été?
Et oui, parce que moi, j'arrivais déjà, on était sur un changement qui n'était pas des moindres. Parce qu'avec les événements qui sont passés, c'est-à-dire le coup d'État, et du coup, politiquement, déjà, c'était un contexte qui était un peu différent du contexte d'avant. Et j'ai ressenti quand même surtout une certaine, comment dirais-je, lien de collectivité, de communauté qui était bien soudé. Et je sentais des gens qui étaient greffés autour vraiment de cet élan qui est nouveau, qui permet de se demander réellement où on va et avec quelle énergie, au fait.
Avec ce nouveau président.
Complètement. Mmh. Avec ce nouveau président, au fait, la population s'est retrouvée dans un nouveau élan.
Je rappelle toute fin que le coup d'État a eu lieu en 2023. Hein.
C'est ça. Mmh. Ouais. Ouais. Donc, cet élan fait que la population est beaucoup... beaucoup imprégnés en ce moment pour leur accorder leur confiance. Et de cette confiance, ben, il y a tout un sort de process et d'événements qui se greffent, qui se mettent en place et qui font que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour le temps que moi j'étais, j'ai senti quelque chose de fédérateur au fait.
Il y a une dynamique anticorruption, parce qu'en fait c'était un peu ça au départ, non?
Ben,
démocratique.
Au fait, il y a plein de piliers qu'il faut remettre en ordre de marche et redresser, dont bien sûr la corruption et plein d'autres. Mais souvent, la complexité de la politique, c'est que ça se passe souvent sur du court terme. Et la réalité économique est plutôt sur du long terme. Et c'est ce qui fait que comment arriver à avoir une dualité qui permet d'équilibrer et d'harmoniser les choses. C'est ça qui est souvent compliqué, au fait. Mais pour l'instant, la population estime compter sur ce nouveau élan. Et puis, on verra ce que tout ça va donner.
Donc, on va parler... on reviendra certainement à ta famille, puisque on verra ce qui s'est passé plus tard. Mais on va parler un peu de tes projets dans l'agriculture. Donc, essaye de nous expliquer un peu déjà le début et ce que tu as pu réussir à faire.
Oui, ben, au fait, dans cet élan, du coup, comme je disais, quand j'étais arrivé, c'était un élément qui me portait à cœur. Et l'idée, avant même d'y aller, je savais qu'il y avait ces terres agricoles. Et quand j'étais arrivé, j'ai pu m'organiser et j'étais allé, du coup, pour voir, identifier ce lieu, c'est-à-dire pouvoir... comment dirais-je, le visualiser, m'imprégner et le contextualiser aussi. Donc, tout cet élément a été fait, identifié, et puis la projection pour s'inscrire, comment dirais-je, dans un élan de réalisation.
Tu peux rappeler ton projet?
Et le projet, c'était surtout dans un projet agricole, en fait, à travers... des hectares agricoles que j'ai, et l'idée c'était de voir comment réimprégner une culture sur place et de cette culture essayer d'avoir un modèle qui permet d'inspirer et de donner des modèles aux autres.
Et sur ça, tu te fondais sur ton expérience aux Amanins?
Pleinement.
C'est ça?
Complètement, ouais.
D'accord.
C'est surtout aussi que, ben, à travers ce taquis et cette expérience des Amanins, l'idée c'était aussi de voir, comme je disais, comment essayer de retranscrire et de porter ma petite pierre à l'édifice en essayant aussi de réaliser quelque chose sur place. Mmh. Et cette réalisation, ben, il faut du temps. Et ce temps a été contrecarré par d'autres événements qui ont fait que, ben, un moment aussi, on se positionne et puis ça suivra son petit bout de chemin. Ouais, c'est toujours quelque part dans ma tête. Et...
Donc, à suivre pour le prochain voyage.
Quel est le premier problème que tu devrais régler, en fait, pour essayer de faire de l'agriculture sur ce terrain?
Et en fait, ce n'est pas un problème à régler, c'est surtout quelles sont les solutions que je peux apporter pour essayer de créer les conditions pour avoir un espace qui soit cultivable et qui puisse permettre de voir que c'est possible.
Et tu as un problème d'eau, non? C'est pas ça que
et,
tu disais.
Et pour cela, ouais. En effet, ben, au-delà, hein, ce n'est pas qu'au Niger, un peu partout, oui. Pour pouvoir réaliser des cultures, la ressource première, au fait, c'est l'eau. C'est l'eau. Et du coup, l'identification, c'est de voir sous quel format aussi je peux procéder et passer. Et de cela, soit il y a une réflexion pour un forage ou des puits. Donc voilà, à voir. Et toutes ces thématiques, au fait, comme je disais, ça prend du temps pour modéliser. Et puis ça ne se fait pas en un clin d'œil, au fait, il faut affiner tout ça.
Et tu pourrais avoir de l'aide du gouvernement ou d'une instance nigérienne, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais sur place?
De l'aide, on peut en avoir, mais pour moi, l'idée, c'était de partir de moi-même. Ouais. De moi-même et... Pour l'instant, c'est plutôt un projet sur une petite échelle qui ne demande pas en tant que tel de solliciter l'aide étatique ou autre chose, mais c'est surtout à travers une réalisation de pouvoir essaimer. Mmh. Et c'est dans cet essaimage peut-être que l'État pourra intervenir pour que ça soit des conditions de travail plus soutenables et qui permettent d'améliorer les conditions des populations aussi sur place.
Ah, donc toi, tu veux essayer de mettre en place un modèle, montrer qu'il fonctionne et qu'à partir de ce modèle, chacun soit autonome de le reproduire un petit peu autour. C'est plus c'est ça, hein, un essaimage d'un modèle qui serait inspiré à la fois de ton expérience et à la fois des réalités sur place et que chacun peut se réapproprier autour.
C'est ça, c'est-à-dire et l'idée, c'est toujours d'expérimenter et de cette expérimentation, le reproduire et de la reproduction peut-être en tirer des leçons et voir en fonction des zones les réalités et comment ça peut se mettre en place et à petite échelle et après voir au niveau régional dans d'autres zones. Après c'est ambitieux hein, mais quand même c'est des modèles à réfléchir parce que tout est à faire.
Et je voulais savoir en fait comment ça a été perçu dans les échanges que tu as eus avec les gens de ta famille ou les gens que tu as pu rencontrer là-bas. Ce projet que tu as, il a été perçu comment?
Ben quand j'étais arrivé, au fait, l'environnement où j'étais, déjà c'est des zones où il y a quelques cultures aussi, parce que c'est des espaces agricoles et il y en a qui sont déjà en place, qui ont commencé à cultiver. Donc, j'étais beaucoup en lien aussi avec ces gens à travers l'échange, en discutant, en essayant de voir aussi comment ils procèdent, quelles sont les contraintes, les problématiques auxquelles ils font face. Et du coup, de ces échanges aussi permet d'émerger et de comprendre que, au fait, souvent, et les problématiques aussi qui peuvent venir par rapport aux cultures, c'est aussi tout ce qui est semences. Et de se questionner aussi d'où viennent les semences que je mets pour mes cultures.
Et les gens que tu as rencontrés, ils avaient des semences qui venaient d'où?
Ben, d'une façon générale, c'est des semences souvent qui viennent d'ici.
Yeah, c'est ça le problème.
Qui viennent d'ici et aussi, il y a aussi toute une réflexion autour de quel usage aussi on en fait des engrais et autres éléments dans les cultures, tout ça, alors qu'on peut procéder en passant par du compost ou d'autres matériaux qu'on transforme sur place, qui fait qu'on a la ressource sur place. Et puis aussi, ben, dans ces réflexions, c'est d'essayer d'avoir souvent des semences paysannes et de pouvoir reproduire ses propres semences. Et ça, c'est possible. Et ça aussi, c'est toute une éducation qu'il faut apporter pour changer aussi les cultures. Parce que acheter des graines, c'est plus facile de les reproduire et de faire des stocks et de pouvoir les garder dans de bonnes conditions pour une année d'activité.
Et justement, tu as l'impression que les gens, même si c'était plus difficile, étaient à l'écoute, enfin, ça les intéressait, ce que tu proposes.
Et oui, ça leur parlait. Après, la problématique, c'est au-delà de l'entente, c'est que souvent, on est sur des temporalités où, par exemple, au Niger, par exemple, il y a 2 à 3 mois de saison de pluie. Donc, c'est des périodicités aussi sur lesquelles il ne faut pas se louper pour pouvoir réaliser ces cultures. Parce que souvent, la problématique de l'eau, elle est existentielle et elle est présente. Et on est aussi dans des pays chauds. Donc, souvent, c'est la baraka, la pluie, au fait, qui alimente et qui fait que tout pousse. Et quand on a des zones où, des fois, on a des forages ou des puits, tout ça, ça permet de continuer des cultures de contre-saison, tout ça. Mais souvent, c'est limité parce que c'est des investissements aussi qui coûtent cher. Et des fois, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de réaliser de tels investissements.
D'accord. D'où... Donc, il y a toute une part de dialogue pour essayer de dire que ça vaut peut-être le coup d'investir. Et à la fois, c'est ce qui peut faire qu'un tel projet, il n'est pas si évident à être accueilli par la population.
Au fait, c'est d'investir, mais souvent de servir d'interface pour voir que c'est possible. Parce qu'au fait, souvent, c'est des accompagnements qui vont demander à ceux qui aient des investissements extérieurs. Par extérieur, on peut parler de l'État ou d'autres structures qui permettent au fait d'accompagner le plus grand nombre. Parce que seul, on peut faire à son échelle et puis quand ça se multiplie, au fait, il faut de l'accompagnement. Et c'est en ce sens aussi qu'il faut voir, parce que quand j'étais là-bas aussi, donc il y avait une ambition en termes agricoles qui était d'accompagner les agriculteurs à se moderniser, à s'installer et puis à bien pouvoir s'inscrire dans une démarche qui permet de produire et de cette production peut-être tendre vers une certaine autosuffisance alimentaire.
C'est deux choses différentes, le discours de production et le discours garantissant une autonomie et une autosuffisance. Ça ne sert pas toujours les mêmes personnes.
Ben complètement, complètement. On est bien d'accord sur ce... Ouais.
Ton projet donc, n'est forcément pas finalisé, puisque cela nécessite de prochains voyages. Mais tu parles aussi de forage, de puits, d'investissement. Derrière tout ça, tu as probablement un projet de financement déjà établi, ou c'est en construction également, tout ça, ou... Comment tu vois les choses pour pouvoir mettre en œuvre toutes les idées positives que tu auras?
Et au fait de financement, comme je disais, dans un premier temps, je préfère aller sur un truc expérimental. Et à travers cette expérimentation, c'est d'arriver à faire corps. Et souvent, on comprend clairement, hein, pour pouvoir réaliser des trucs, au fait, il faut déjà donner un élan et montrer quelque chose qui est réalisable. Et en ce sens, au fait, si je dois réaliser ce projet, ça sera de mes propres fonds, de mes propres investissements. Et c'est quelque chose, au fait, qui me tenait à cœur, au-delà même d'une éventuelle projection.
D'accord.
Peut-être qu'on peut écouter faire une petite pause musicale. Tu nous as rapporté quelques pépites à découvrir. Alors,
I'm
Vous êtes sur Radio Saint-Péréol 94.2 dans une émission de Ici et d'ailleurs avec Abdou comme invité.
Abdou, on vient d'écouter une musique que tu nous as rapportée. Qu'est-ce que c'est ?
Et c'est une chanson Djirma. En fait, c'est en langue Hausa. C'est du coup une des ethnies du Niger. Et Djirma, c'est la grandeur. Ça met en lumière la grandeur et à travers les prières, tout ce qui nous lie, qui nous met en lien. Et ça expliquait aussi toute la résonance autour du lien et de la confiance.
Est-ce que ce sont des valeurs qui sont particulièrement présentes au Niger ? Tu dirais que...
Le lien, c'est quelque chose qui résonne énormément au Niger et au-delà, hein, en Afrique, et je pense un peu partout. Ici aussi, on est en lien. Et au-delà du lien aussi, il y a la solidarité.
Et comment elle s'exprime très concrètement dans ce que tu as pu vivre, observer ?
Cette solidarité, elle est quotidienne. Au fait, comme je disais, quand j'étais là-bas, les gens, ils viennent naturellement te saluer pour te dire bonne arrivée. Il y en a plein que je vois, il y en a que je ne connaisse pas, mais juste ils connaissent mes parents. Donc, ils savent qu'il y a un des enfants qui est arrivé, ils viennent me saluer. Et puis, pareil, des fois, on t'apporte des plats. Voilà, la famille, quand ils entendent que tu es là, ils peuvent t'amener des plats, des petits trucs symboliques qui font du lien et qui font du bien aussi. Ouais, qui font du bien, c'est souvent des petites subtilités. Hein. Et c'est ça aussi qui fait la richesse et la beauté du lien autour de la solidarité, en fait, et de l'entraide.
Tu as, on va le dire, perdu ton papa pendant que tu étais au Niger. Et la solidarité, le lien, je pense que tu l'as bien vécu à ce moment-là. Tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe ?
Oui, en effet, ouais. Du coup, ce voyage s'est déroulé en deux temps. Donc, j'étais parti début décembre. Et dans cette aventure, au fait, au bout de deux semaines, du coup, j'ai perdu mon papa à Lille, qui était ici en soins, du coup. Et de ce fait, au fait, moi, quand j'étais arrivé sur les deux premières semaines, j'étais vraiment baigné dans un environnement où j'étais venu pour voir la famille, les amis, créer du lien, faire le tour de la famille. Voir mes oncles, mes tantes, tout ça. Et quand cet événement s'est produit, du coup, le décès de mon papa, et là, la magie a opéré, au fait. Et cette magie, c'est juste la beauté de l'humain qui nous lie. Et il y a toute la famille. Il y a toute la famille. Et cette famille, ce n'est pas juste papa, maman, ni ses sœurs et oncles. C'est au-delà. Au-delà, et du coup, c'est toute une alchimie de présence de gens qui te soutiennent. Et il y en a plein qu'on ne connaît pas, mais qui connaissent à travers son existence, son parcours, ses liens, le boulot, ses connaissances. Et c'était des moments forts et émouvants.
Et je suppose que tous ces gens reparlent de ton papa, de sa vie, de ce qu'il a fait. Vous faites ça ?
Et ça parle, mais souvent quand on se retrouve dans ces moments, c'est des moments souvent où il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. Il arrive qu'on discute, mais on se sent relié par le silence cette fois-ci.
Est-ce que tu peux nous décrire quels sont les rituels ou les habitudes quant aux funérailles au Niger ?
Du coup, les habitudes aux funérailles ramènent à s'inscrire dans un modèle, parce que nous, du coup, on est musulmans, et à travers la religion, du coup, il y a des procédures et des façons de faire qui s'opèrent. Donc, quand on décède, au fait, il y a déjà le corps à nettoyer, il y a des prières à faire, et après on procède à l'enterrement de la personne.
Mmh. Ouais. Sur plusieurs jours.
Et l'enterrement, ça se fait dès qu'on peut. D'accord. Dès qu'on peut, et puis ben, du coup, comme ça s'est fait ici, il a fallu le temps que le corps soit rapatrié. Mmh. Et après, quand il est arrivé, on a procédé à l'enterrement. Et après, quand c'est fait, on revient à la maison et on se retrouve tous. On fait une grande fatia. C'est des bénédictions qu'on lui apporte à travers des lectures et des versets du Coran qui permettent de l'accompagner. Et après, il y a des... Il y a, comment dirais-je, des repas ou plein de trucs qui sont faits pour que les gens puissent voilà, manger, passer un temps. Et après, ben, écoute, c'est ce moment aussi qui l'honore et qui fait qu'on procède à quelque chose qui nous apaise. Le fait qu'il soit enterré, qu'on sait que là, il a finalisé ce petit bout de chemin qu'il a à faire. Et que ben, par la suite, on sait que nous, on a acheminé à continuer ce bout de chemin quoi, à travers ben, tout ce qu'il nous a inculqué comme valeur, comme éducation, comme repère, comme ancrage. Et après, ça a permis aussi ce moment, comme je disais, de retrouver toute la famille et toute la beauté du lien et des gens. Et c'est des gens qui viennent de toute la région. Ce n'est pas juste de Niamey, c'est de partout. Ils viennent parce qu'ils le connaissent, parce que c'est des amis, parce que c'est des tantes, c'est des oncles, c'est des frères, c'est des cousins, c'est des neveux. Et après aussi, ce qui était beau dans ces moments, c'est surtout aussi que, avec mes petits frères, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vus tous ensemble. Et ce moment nous a ramenés à se retrouver tous, parce que moi, j'étais allé, mais après... Le décès, ben, ils sont venus. Ils sont venus et on s'est retrouvés. Tous les frères à se poser, à échanger, à discuter et à prendre du temps pour nous. Parce qu'avec la constitution de nos familles, on s'est perdu de vue. On est en lien fort. Hein. On s'appelle, on passe beaucoup de temps à se voir, tout ça, mais jamais ensemble. Et de se retrouver aussi ce moment... qui était un moment solennel et riche, intense en émotions. Ouais, c'était beau aussi.
Ben, merci de partager avec nous. On vous souhaite beaucoup de paix et de lumière à toute la famille et merci d'avoir rendu honneur à ces liens vivants alors qui font la joie.
Et on va parler un peu du rôle des femmes dans ces moments-là, peut-être. Mmh. Comment ta maman est entourée et soutenue? Comment ça se passe, en fait, un peu?
Ben, dans ces moments, dès qu'on a la nouvelle, au fait, il y a vraiment tout un lien et de femmes qui se met en place. Et ça ne s'explique pas, au fait, c'est automatique. C'est automatique et ça arrive naturellement. Comme je disais, au fait, tous les oncles et les tantes, les sœurs, les amis, les voisins, hein, tous ceux qui sont à côté, dès qu'ils ont l'info de cette nouvelle, ben, ils viennent en tant que soutien. Et à partir de ce moment, ben, au fait, la maison, elle est tout le temps animée et de plein de gens, du matin jusqu'au soir, au fait. Et c'est un rythme qui est complètement différent parce qu'on le vit aussi, ces moments de vie, avec la naissance aussi, avec les mariages et aussi avec les décès. C'est ces trois périodes où souvent, vraiment, on a des rythmes de vie d'une intensité et d'une beauté très rare qui fait que des gens que tu n'as pas vus pendant très longtemps, tu les retrouves. Et vous passez des moments inoubliables. Et du coup, pour revenir au rôle de ces femmes, au fait, ils viennent comme personnes ressources et soutien pour vraiment essayer d'épauler et d'apporter leur présence dans ces moments difficiles. Et de ce fait, la maman se sent entourée. Et comme je disais, souvent, c'est des périodes et des moments où on est beaucoup en calme. Donc, on sent la présence de l'autre. Juste sa présence est suffisante pour apaiser aussi quelque chose, quoi, parce que la douleur, elle est forte et intense. Hein. Donc, le fait de rester dans ces moments présents et de se sentir entouré, de ne pas être seul, est déjà bénéfique et de fois source de bien-être aussi dans des moments comme cela.
Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu perçois la place des femmes au Niger? Est-ce que c'est quelque chose de différent par rapport à ce que tu vois ici? Est-ce que c'est le même type de relation entre hommes et femmes? Comment tu...
Je profite du coup de cette question pour et remercier vivement et pleinement ma compagne, Lydia. Ouais. Et aussi lui mettre en lumière toute l'affection que j'ai pour elle. Et les femmes, pour moi, au Niger, leur place et leur rôle, est mise à lumière et en avant par la société, Par la société, et ce qui est souvent est compliqué et difficile à expliquer, en fonction des cultures, il y a des rôles et des places qui sont faits et qu'on est même de fois compliqué à expliquer. Par exemple, si je prends le cas du Niger, la place de la femme, elle est partout. Les femmes sont dans les institutions, les femmes sont sur des rôles, mais est-ce que... Parce que la question de la place de la femme, elle peut être complexe et difficile à expliquer parce que je ne sais pas exactement ta question, vers quoi aussi.
Ah, moi, je tendais vers rien de spécial, C'est parce que tu parlais de la femme, et puis je dois dire, vous allez entendre tout à l'heure une chanson, et que tu nous as présenté comme important, justement, par rapport à cette musique, par rapport aux femmes. Mmh. Et donc, ça m'a questionnée,
Ok. Et du coup, si c'est par rapport à cela, je pense que la place de la femme, elle est dans... dans ce rôle de femme pionnière, femme mère, femme accueillante, femme qui met en place pas mal de projets et d'activités. Parce que, souvent, tout ce qui est en lien avec des activités manuelles, en lien avec tout ce qui est vannerie, poterie, tout ça, c'est vraiment des formats et des trucs que réalisent les femmes. Et les femmes sont beaucoup des très belles femmes et des belles vaillantes qui mènent pas mal d'actions et de projets au Niger et qui essaient, par elles-mêmes de trouver leur place et le rôle qui est la leur. Et en ce sens, ces femmes sont pleinement dans un modèle et un format qui, je pense, répond complètement à leur attente. Et aussi, il faut comprendre que souvent, pour identifier ces places, ces rôles, souvent, ça dépend aussi des cultures et de, l'histoire aussi du pays. Donc, pour le Niger, sincèrement, je sens... Et une liberté qui fait que la femme a pleinement sa place dans la société et qu'elle l'exprime pleinement.
Alors, tu as parlé des femmes comme pionnières, donc je propose qu'on écoute cette musique qui m'a questionnée du coup sur la place des femmes.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Saint-Féréol 94.2.
Abdou, maintenant, on va parler un petit peu de ton retour du Niger. Par rapport à tes enfants, qui sont quand même pas très grands, si tu peux nous rappeler leur âge ?
Oui, 10 ans et 8 ans.
Voilà. Est-ce que tu leur as ramené quoi ? Des cadeaux, des impressions, des petites histoires ?
Et je dirais que je leur ai amené déjà une énergie, parce que j'étais allé me ressourcer aussi, au-delà du contexte et tout ce qui s'est passé. Quand même, c'était un bon moment sur plusieurs moments et plusieurs éléments qui sont passés là-bas. Et au fait, quand j'étais là-bas aussi, j'étais en lien avec eux. On s'appelait souvent et on était en lien. Ils voulaient aussi savoir mes journées, ce que je faisais, comment ça se passait. Et quand j'étais arrivé, au fait, je leur ai apporté des tenues traditionnelles de chez moi, des tenues Touareg. Et aussi, comme c'est des petits footeux, ils aiment bien jouer au foot. Du coup, je leur ai fait aussi des petits maillots en leur mettant leur nom, des petits trucs symboliques comme cela.
Il y a une équipe de foot au Niger ? Moi, j'y connais rien, mais...
Oui, bien sûr. Il y a une équipe de foot, Meina. Meina du Niger, oui. Il y a une équipe de foot. Meina, c'est la gazelle.
Ah, d'accord, ouais.
En symbolique, ouais, il y a une équipe de foot, le foot est bien développé, la culture est bien imprégnée aussi.
Tes enfants, tu as dû leur manquer parce que finalement, tu étais parti pour 3 semaines et tu es parti plus longtemps.
Oui, en effet, ouais. Un moment, ça a commencé à les questionner et puis Issa, le petit deuxième, il se demandait quand est-ce que j'allais rentrer parce que ça a commencé à le manquer aussi.
Oui. C'était donc, long.
Et je ne sais pas si c'était long, mais c'est surtout que souvent, les enfants sont calqués sur une périodicité qui fait qu'on leur dit « je pars tant, je reviens tant ». Eh bien, au fait, lui, le temps est là et il ne me voit pas venir, ça le questionne. Il ne comprend pas. Après, quand il a compris ce qui s'est passé, tout ça, et le facteur temps s'est rallongé, il l'intègre, mais à chaque fois, il voulait savoir quand est-ce que je rentrais. Quoi,
et venir. Ils n'ont pas demandé à te rejoindre, par exemple ?
Et si.
Ah, voilà.
Et si, oui.
Ils étaient
déjà allés, mais ils étaient petits. Hein. Issa, il avait quoi ? Peut-être à peine un an. Mmh.
Ouais. Ah oui, donc il n'a pas de souvenirs.
Et si, il se rappelle, parce qu'on a aussi immortalisé pas mal de moments avec des photos. Mmh. Donc, quand il les voit, il sait que c'est lui. Et puis, ça, il se... peut-être pas de souvenirs, de rappel de lieu, tout ça, parce qu'il était enfant. Mais quand il voit les images, il sait bien qu'il était, il faisait partie du voyage. Ouais. Mmh. Oui, mais il pensait souvent venir. Là, ils disent, ben, si tu ne viens pas, nous, on va venir te
et
retrouver.
Oui, c'est normal. Ouais.
Bon, apprenez un peu la patience.
Il y a un prochain voyage de prévu ?
Et là, dans l'immédiat, non. C'est surtout, s'il y a un voyage à prévoir, ça sera plutôt un voyage avec la petite famille. La petite famille, ma compagne, les enfants, et puis pour l'instant, peut-être des réflexions pour se projeter et puis prendre du temps aussi pour nous.
Et toi, qu'est-ce que tu ramènes dans ton quotidien ici de ce que tu as pu reconnecter au Niger ?
Ben, de ce que je ramène, je me sens encore plus ancré et je veux aller plus vers de la simplicité.
D'accord.
Être vraiment à l'écoute et vivre l'instant présent, en fait. Ouais, m'imprégner de maintenant. En fait, tout ce que je vis maintenant, c'est ça qui m'importe le plus et qui m'anime et qui fait que je peux donner parce que j'ai de la joie et cette joie, je l'ai maintenant et je la partage maintenant.
Eh bien, merci. Maintenant, merci.
Merci beaucoup pour le partage.
On a commencé avec la prière du matin, hein, et on va finir avec la prière du soir.
Au revoir, Abdou.
Merci.
Merci.
Merci à toi.
Merci.